des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Fin des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son actualité, ses petites manies et son impertinence, d'hier à demain, de l'amour à l'humour, de récits, de sujets, d'invités, d'artistes, et à mes côtés, nous retrouvons Madame Coco.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Madame Coco, ça va ?
Bon mercredi, ça va très bien, merci.
Alors mercredi dernier, nous n'étions pas là, c'était une rediffusion parce que j'étais malade, mais aujourd'hui ça va mieux. Ensuite, nous accueillons à mes côtés Audrey.
Bonjour.
Comment ça va, Audrey ? À côté du micro, Audrey, parce que t'entends pas.
Pardon.
Bonjour. Donc, Audrey qui viendra nous parler make-up. À côté, nous avons Adeline.
Bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Donc, qui viendra nous parler coiffure pour les réveillons de Noël et Nouvel An.
Yes.
Et nous avons à côté, dans le coin puni, Juliette et...
Elisa Marie.
Elisa Marie. Donc, nos deux petites modèles. Vous êtes contentes ?
Ah, oui.
Juliette, à côté du micro.
Oui.
Bon, on ne sait pas est-ce que vous allez ressembler en sortant. Bah, on n'est pas responsable. On va enchaîner tout de suite, du coup, avec la rubrique actualité.
Allez.
Et en fait, Angèle, il me dit, maman, continue parce que ça va pas.
Ah.
Ouais. Donc, on continue. On va faire l'actualité. Bonjour, au fait, Angèle, hein, ça va ?
Oui, ça va.
Ah bah c'est pour ça, on lui avait pas dit bonjour.
Ouais, voilà, il nous a fait la tête.
C'est pour ça.
Ouais, voilà, on est punis. Voilà. Eh bah, ben c'est parti, actualité. Alors, séquence actualité. Revenons sur le week-end du 23 novembre. Nous étions avec Coco sur Lille. On a fait une petite journée à Lille. Donc, une journée dédiée contre la violence faite aux femmes, avec avant ce fameux Grenelle organisé par le gouvernement. Cette journée, pour dire que nous attendons des mesures à la hauteur... on les a pas eues. Nous toutes a voulu donner la parole à ces femmes donc décédées sous le coup de leur mari ou compagnon frappé, aux femmes qui subissent des violences, le harcèlement ou le viol. Une marche qui a rassemblé 150 000 personnes partout en France et à peu près 3 000 à Lille. Donc nous avons interviewé Blandine du collectif Nous Toutes. Et donc est-ce qu'on va pouvoir entendre ce petite interview, Angèle.
Donc moi, c'est Blandine Cuvillier. Je suis co-organisatrice de la marche Nous Toutes à Lille.
Et cette journée du 23 novembre, elle va consister en quoi exactement ?
Le but de cette journée, c'est vraiment de mobiliser pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible pour vraiment montrer qu'on est tous contre ces violences et qu'on demande vraiment au gouvernement des mesures concrètes pour lutter contre toutes ces violences.
Mais du coup, vous n'avez pas Macron, depuis qu'on l'entend, vous n'avez pas l'impression qu'il est un petit peu absent ?
C'était censé être la grande cause du quinquennat.
Ouais.
Clairement, les moyens qui sont mis en place ne sont pas suffisants du tout. Il y a de l'argent qui a été promis. Malheureusement, c'est très loin du 1 milliard que le Haut Conseil pour l'égalité demande, rien que pour lutter contre les violences conjugales. Là, actuellement, il y a 283 millions d'euros qui viennent d'être attribués pour la lutte pour l'égalité femmes-hommes en général. C'est très loin du 1 milliard pour simplement... les violences conjugales. Donc nous, on demande vraiment plus.
Et depuis que vous faites ce mouvement, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé ?
L'année dernière, on voit vraiment... quand on avait organisé la marche l'année dernière, on avait été déjà surprise du nombre de personnes qui étaient venues. Il y avait 50 000 personnes à travers toute la France, 1 500 pour Lille. Là, cette année, on voit vraiment, notamment au niveau médiatique, que les Français, les médias se sont vraiment emparés de ce sujet, sont de plus en plus sensibles à cette cause et vraiment indignés de toutes ces violences, se rendent compte que les violences, ça n'arrive pas qu'aux autres. MeToo, ça a permis de se rendre compte à la société en général qu'il y avait énormément de personnes qui étaient atteintes, qui étaient touchées par ces violences. Et de plus en plus, la parole s'ouvre et de plus en plus de personnes réalisent que ça concerne tout notre entourage, nos amis, nos mères, nos sœurs, nos filles. Et donc oui, on voit vraiment qu'il y a une sensibilisation de la société sur ce sujet.
Et là, la marche, du coup, le préfet a interdit... un passage initial, on va dire. Donc du coup, vous allez passer par où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons passer... Donc là, c'est rendez-vous devant l'Opéra. Après, on va passer jusque sur la Grand Place. On va prendre la rue Nationale, la rue Solferino, et finir devant la Porte de Paris. À la base, initialement, en fait, on voulait pouvoir passer devant la Gare Lille-Flandre pour pouvoir faire une action avec notamment les mettre un foulard à la statue Romy. Et ensuite revenir ici, vraiment parce que l'objectif c'était d'être le plus visible possible. Nous détourner vers la Porte de Paris, c'est un peu nous invisibiliser. Et c'est vraiment ça qu'on dénonçait.
Et du coup, vous savez que lundi, donc ça sera lundi 25, Martine Aubry fait quelque chose à l'Hôtel de Ville.
Oui, tout à fait. Elle va dévoiler une grande affiche avec tous les noms des femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année. On en est à 138 femmes qui ont été tués sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Lors de nos précédentes actions, nous avons sensibilisé autour de toutes ces violences, notamment avec un dying où nous sommes allongés par terre pour dénoncer ces violences, ces féminicides. Ou alors un moment où nous avons mis des chaussures par terre pour aussi dénoncer toutes ces femmes qui ont disparu. Et nous avons égrené tous ces 138 noms. Et c'est vraiment très fort, en fait. C'est pas juste 138, c'est 138 femmes qui ont eu leur vie interrompue à cause des violences sexistes et sexuelles. À cause de cette société qui estime que une femme vaut peut-être moins qu'un homme, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose à changer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Et donc là, vous avez une manifestation le 23 novembre et les prochaines ?
Alors nous c'est vraiment nous toutes est un collectif qui milite contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on peut faire des actions toute l'année, on va faire des actions toute l'année, et après il y aura à nouveau une marche l'année prochaine à la même date, à l'occasion donc de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Et du coup est-ce que les femmes qui sont justement qui connaissent des violences conjugales et X peuvent se rapprocher de vous?
Alors, nous ne sommes pas habilités à la prise en charge des femmes victimes de violences, mais nous pouvons les réorienter vers des associations spécialisées dans la prise en charge de ces violences, justement.
Donc, nous allons continuer avec notre actualité. Petite rectification, donc le 23 novembre, il y avait 138 femmes décédées sous les coups de leur mari ou conjoint. Et à l'heure actuelle, on est à 142.
Oui, oui, triste.
Ouais, donc on a l'impression que c'est pire que l'année dernière où c'était 128.
Alors que c'est censé s'améliorer quand même.
Normalement, dans la logique.
Voire même ne pas exister.
Tout court, ça serait encore mieux. Mais bon. Donc, ce même samedi 23 novembre, toujours dédié à la femme, nous avons pu assister à la pièce de théâtre de la compagnie Boum dans ton cœur à la salle des fêtes de l'île Five. Être au cœur de l'histoire d'une femme battue, son quotidien, ses émotions. Écoutons l'interview de la créatrice, enfin, celle qui a créé la pièce de théâtre, Laurette François, et de la comédienne Laura Levelli.
Alors, bonjour Laurette.
Bonjour.
Tu es déjà venue à Radio Plus.
Oui, c'est vrai.
Le 6 novembre, oui. Pour présenter ta pièce.
Oui.
Aujourd'hui, on est le 23 novembre. Un peu, on va dire, la journée contre la violence faite aux femmes, avec oui. La marche qui a eu lieu à 14h devant l'Opéra de Paris.
Oui.
De Lille, pardon, lapsus révélateur. Donc, du coup, ta pièce, ça s'est bien passé aujourd'hui ?
Oui, très bien. C'était très bien. On a eu de très bons retours. Et c'était très intense. Donc, on a fait passer le message.
C'est cool.
Oui, c'est bien.
Et donc là, j'ai vu, il y avait deux dames qui venaient parler.
Oui.
C'était des personnes de la mairie de Lille.
Alors, on a une dame qui vient du CIDFF, pardon, et une autre dame qui est juriste et qui rencontre très souvent ces dames pour leurs soucis, par exemple, de divorce. Ou, voilà.
D'accord. Et donc, à côté de toi, c'est
Laura Levelli, la comédienne, qui joue en alternance avec moi.
Oui.
Donc bonjour Laura.
Bonjour.
Donc parle-nous d'aujourd'hui, c'était bien? Comment tu ressens les choses?
Toujours très intense, surtout qu'il y avait, c'était en nombre réduit. Du coup forcément c'était assez, on pouvait voir tous les visages. Et comme c'est une adresse directe, c'est toujours assez fort. Et quand on en ressort, enfin moi j'ai un peu de mal à dire ce qui s'est passé. C'est un peu
flou.
C'est un peu flou dans ça. Mais en tout cas, ils étaient et elles étaient super à l'écoute. Du coup, il y a eu un échange. En tout cas, il me semble qu'il y a un truc qui est passé quand même.
Oui, c'est sûr.
Donc voilà.
Parce que là, principalement, celles qui étaient dans le public, c'était des femmes qui ont connu la violence.
Oui,
pour la plupart.
Pour la plupart. Ouais. Public ciblé des femmes.
Et donc, tu as une petite anecdote.
Texte, c'est une personne que du coup je t'avais dit qu'on a rencontré et
oui,
on a construit,
ouais.
Voilà, on a construit autour pour avoir le monde de Sacha qui est Laura.
Voilà,
impeccable.
Donc nous allons continuer ce petit interview avec une spectatrice qui a pu assister à la pièce de théâtre qui s'est déroulée à l'île Five par la compagnie
Boum dans ton cœur. Donc alors, dites-nous ce que vous avez pensé du spectacle.
Ne me parlez pas d'amour quand.
J'ai trouvé que c'était chouette. J'ai trouvé que ça parlait de manière assez claire de violences physiques, morales que peuvent subir les femmes. J'ai trouvé en même temps que ça mettait le public dans une situation de malaise liée au jeu de l'actrice qui joue les deux rôles, hein, aussi bien de la femme que de son mari. Le maquillage qui fait ressortir tout ça. La mise en scène en général, les ballons qui claquent, tout ça, donc ça nous interpelle aussi. Non, c'était plutôt un moment intéressant.
Donc nous allons continuer avec notre petite interview. Du coup, on est passé au lundi 25, comme j'avais stipulé dans la première interview avec nous toutes. On est allé voir Martine Aubry, entre guillemets, sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc la mairie a organisé une manifestation à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes afin de dénoncer à l'époque les 135 féminicides déjà enregistrés en France depuis le début de l'année 2019. Au moment de l'édition de cette manifestation, le nombre était de 135 femmes à cette époque et au jour d'aujourd'hui il est passé à 142, ce qui est beaucoup trop. Et pour rendre hommage à ces femmes mortes sous le coup de leur compagnon ou ex-compagnon, Martine Aubry, maire de Lille, et Anne Mikolaja, alors moi et les noms, ça fait 3000, hein, adjointe au maire délégué des droits des femmes et de l'égalité hommes-femmes. Donc j'ai pu interviewer Anne, adjointe au maire délégué aux droits aux femmes, et nous allons écouter ce petit interview.
Je suis Anne Mikolajacques, adjointe à la maire de Lille en charge des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et malheureusement de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est le 25 novembre, c'est donc la journée internationale pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes. Et donc on avait décidé donc avec la maire de pouvoir rendre visibles les 138 féminicides. Et donc on a décidé de mettre devant l'hôtel de ville les prénoms de chaque femme. Alors quand on a fait faire la bâche, c'était 135. Quand on a fait faire la bâche, c'était il y a 4-5 jours. Donc vous imaginez, on est déjà à 138. Ça devient... on a l'impression que ça s'accélère. On est quand même à plus 18 par rapport à l'année dernière en fin d'année. Mm-hmm. Donc c'est une problématique qui, à Lille, nous occupe. Enfin, m'occupe, moi, mais pas que moi, puisque on travaille beaucoup toutes ces questions avec les associations. Et donc... j'ai la chance, j'allais dire quand même à la mairie, d'avoir une équipe dédiée pour les relations avec les associations et toutes les actions qu'on pourrait mener dans le cadre de l'éducation, du sport, de la jeunesse. Enfin, je vais en oublier forcément, qu'on peut mener en tant que... Enfin, la ville peut mener, mais aussi d'accompagnement de toutes les associations. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir une personne au niveau des ressources humaines qui travaille aussi la question de lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail avec la mise en place, et on anticipe la loi, la mise en place de la cellule d'écoute et du j'ai pu me souvenir du nom, mais enfin de la cellule d'écoute pour toutes les femmes, mais aussi peut-être les hommes victimes de harcèlement sexiste et sexuel au travail.
Et donc du coup, il y a un numéro pour ces femmes qui connaissent justement cette violence au niveau du travail et à la maison.
Alors pour cette cellule au niveau de l'interne, il y aura évidemment une ressource interne. On va la mettre en place la semaine prochaine. Enfin, on va avoir une réunion la semaine prochaine pour la mise en place réelle, enfin effective. Et puis pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, bon, il y a le 17, hein, c'est quand même la police. Et puis eh ben, il y a le 39-19 qui est un appel gratuit qui permet aux femmes d'être écoutées et de pouvoir effectivement parler de leurs problèmes et ça les met aussi en relation avec les associations sur les territoires.
Est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce genre à l'Hôtel de Ville?
Alors, à l'Hôtel de Ville, il y a déjà eu un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas forcément à l'Hôtel de Ville, mais c'est à Lille, dont ce soir, le film au cinéma L'Univers jusqu'à la Garde. Et puis, il y a d'autres événements qui auront lieu donc mercredi soir, jeudi soir, et qui se terminent le 30 novembre par un match de roller derby, qui a une discipline sportive éminemment féminine, mais pour terminer, j'allais dire aussi par un côté un petit peu plus agréable.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Voilà, merci, bonne journée.
Alors notre petite rubrique actualité touche à sa fin, donc malheureusement en cette fin de... C'est pas toujours gai pour tout le monde avec 142 femmes décédées sous les coups de leur conjoint, mari, ex-mari, etc. Donc nous allons passer à la rubrique un petit peu plus joviale.
J'espère.
Bah oui. Donc la rubrique invitée. Oui. Alors aujourd'hui, à l'émission chez Betty, comment s'apprêter? Alors attends, s'apprêter, attention, parce que c'est un verbe qui ne revient pas souvent, mais qui se dit normalement, s'apprêter pour les réveillons de Noël et Nouvel An. Donc nous, les femmes, bah, c'est toujours un casse-tête, hein, je pense.
Ah, c'est ça.
De comment je vais me coiffer. Ah oui, déjà, tu dois... Alors si ton mari veut pas faire la bouffe, bah, t'es obligé de te débrouiller. Enfin, comme dans la... Hein, on va dire
les courses.
70% des cas. Donc ouais, tu dois faire les courses, sauf si c'est fait chez tes beaux-parents, tes parents sont encore vieux. Donc tu dois penser à tous les enfants, comment les habiller, toi, comment t'habiller. Alors du coup, nous, comment se coiffer et comment se maquiller pour la nouvelle année? On verra que c'est tout de paillettes, de voilà. Comme c'était à la mode, je veux des paillettes dans ma vie.
Exactement.
On est en plein dedans. Mais avant toute chose, je vais parler... Donc, du coup, on vous a présenté tout à l'heure Audrey qui maquillera, Adeline qui coiffera. Donc je pense qu'elles peuvent déjà débuter maintenant. Donc en fait, il y a deux modèles, donc Juliette et...
Elisa Marie.
Oui, c'est un peu Elisa, je vais te dire. Hein. Donc Juliette et Elisa qui sont venues servir de modèles. Donc on va filmer tout ça et vous pouvez aller voir ça sur la page Facebook de Radio Plus. Ça pourra donner un petit truc en plus. Mais avant toute chose, je vais déjà parler de l'origine de Noël.
Allez.
Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est...
Bonne question. Voilà. Qui connaît vraiment?
Eh ben voilà.
C'est vrai ça.
Est-ce que c'est Coca-Cola? On ne sait pas. Donc, on associe généralement Noël à une fête familiale, ce qui n'est pas faux.
C'est vrai.
Ce qui n'est pas faux. Les cadeaux sous le sapin, oui, la bûche du repas de Noël, bah ouais, on peut pas faire sans. Ou les rues illuminées, ainsi qu'à un jour férié, pardon, lié à la religion et au même titre que la Toussaint.
Ça nous parle.
La Toussaint était très... Alors, moi, j'ai appris par ma maman que la Toussaint était aussi important que Noël à l'époque.
Ah, ouais.
Ouais. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on fait la fête. Le petit Jésus, bon, il est gentil, mais bon. Mais alors, donc, mais pourquoi donc? Ouais, voilà. Nous, c'est plus les enfants en même temps, c'est que les cadeaux.
Réunion familiale.
Exactement. Et rigoler, boire, même si c'est interdit, mais c'est comme on fait quand même. Donc, mais pourquoi donc Noël a-t-elle lieu le 25 décembre, me direz-vous?
Pourquoi Betty Noël a-t-il
ben,
lieu?
Oui, mais en fait, on pense que beaucoup de choses, mais en fait, on va découvrir que. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'Avent? D'où vient le Père Noël? Quelles sont les origines de la crèche, de l'arbre de Noël ou encore de la couronne de l'Avent?
Ouais. Ouais.
Retour sur les origines donc, de Noël et toutes ses festivités. Youpi! Donc, l'origine de Noël n'est pas clairement établie. Donc, on sait, voilà. Faut avoir vécu à l'époque pour le savoir.
Ouais.
Voilà. Donc, mais on sait que Noël est né dans des temps très, très anciens, en marge du solstice d'hiver. On en parle souvent. Une période charnière pendant laquelle avaient lieu, dès l'Antiquité, de nombreuses célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la fertilité, Saturne. Les Saturnales, qui se déroulaient du 17 au 24 décembre, semblent avoir un lien incontestable avec la nativité, née quant à elle avec la chrétienté. Il n'y a en effet aucune certitude quant au jour exact de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354 par le pape Libère.
Ah, c'est lui qui a choisi.
C'est, ouais, donc le petit Jésus n'est peut-être pas né le 25 décembre. Mmh. Voilà.
On nous aurait trompé depuis tout ce temps.
Ouais, on nous a menti.
C'est pas bien.
Donc, de Jésus au Père Noël. Chez les chrétiens, la fête de Noël s'est cristallisée ensuite autour des récits des apôtres, ainsi que sur d'autres personnages et rites. Nicolas de Myre, alias Saint Nicolas, évêque d'Asie mineure du 4e siècle, va ainsi apporter une pierre importante à l'édifice de Noël. Il va aussi contribuer à la déconnexion de la fête chrétienne et de la fête païenne, en inspirant directement le Père Noël moderne. Ce protecteur des enfants va faire l'objet d'un culte et de traditions importantes dans les pays de tradition germanique. Il se dédoublera progressivement en un sympathique homme barbu, au XXe siècle, notamment sous l'effet de la publicité.
On le fête énormément en Belgique, ça.
Oui, bah, apparemment, ça vient d'un évêque.
Oui.
Voilà.
Ouais, en Belgique, en général.
Voilà. Ce qui a inspiré le Père Noël.
Oui.
Donc, je vous laisse imaginer à quoi devait ressembler l'évêque.
Chouflu, barbu.
Ouais, exactement.
Avec un manteau rouge.
Ça, c'est plus américain. Mais enfin, bon, bref, on ne sait pas trop. L'histoire, c'est un peu. Voilà, t'as l'imagination. Alors, et le sapin de Noël dans tout ça? Pourquoi? Quant au sapin de Noël, il faut remonter là encore très, très loin. Alors, on considère que ce sont les Celtes qui ont commencé avec la renaissance du soleil le 24 décembre, étaient en effet associés à l'épicéa,
oui,
symbole de l'enfantement. Vous allez comprendre pourquoi après on a choisi le 25 décembre pour le petit Jésus. C'est en 1521 que l'arbre de Noël proche de celui qu'on connaît aujourd'hui aurait fait sa première apparition en Alsace. Ouais, c'est lui français. Dans cette région, les habitants auront commencé à couper les arbres encore verts, loin de la Saint-Thomas, donc le 21 décembre, et les a décorés de roses, de pommes, en faisant référence à Adam et Ève.
Ah,
mais ouais.
On le fait plus ça.
Et ben voilà, la prochaine fois,
j'ai pas encore mis mon sapin.
Deux confiseries et deux petits gâteaux.
Ah, aussi.
Bon, après, quand t'as des enfants,
petits chocolats.
Ouais, fais attention que le sapin, voilà, parce que après,
ou des chats, des animaux.
Ou les animaux. Enfin, ils aiment pas trop le chocolat, mais bon, les petits gâteaux aussi. Bon, à l'époque, on faisait avec ce qu'on avait, donc des petits gâteaux, des bonbons, des pommes et des roses.
Bah, je trouve ça sympa.
Ça peut sentir bon, c'est déjà vrai. Avec la rose.
Oui.
Et oui, en même temps, le gros souci, c'est que ça ne se garde pas. Chaque année, tu es obligé de les refaire.
Ouais.
Mais ça peut être une bonne idée.
À mon avis, ça
ne
dure pas une journée. Hein.
Ouais. Je pense
pas.
Si tu fêtes le réveillon de Noël chez toi, t'es mal barré. T'as eu des chocolats? Ils sont sur le sapin. Donc, du coup, je reprends. Alors, la date à laquelle nous fêtons Noël, donc 40 jours pile avant la Chandeleur, commémorant la présentation de Jésus au Temple. Mmh. Retenez tout ce que je dis. est avant tout un héritage de la Rome antique.
Oui.
Donc c'est ceux qui sont crucifiés le petit Jésus, ils ont choisi le 25 décembre. Donc bien avant la naissance de Jésus de Nazareth, la fin de l'année solaire, donc le solstice d'hiver, est une période charnière pendant laquelle ont lieu de nombreuses célébrations vouées au culte des dieux, donc de la semaille, de la fertilité. Les Saturnales se déroulent du 17 au 24 décembre pendant 7 jours. Famille et amis se rassemblent dans un décor de végétation et de guirlandes et s'offrent des figurines de pain ou de terre cuite.
Ah, 7 jours, ça coûte très cher si on prend ça encore aujourd'hui.
Oui, bon, on n'est pas loin déjà toute l'année. Ouais. Alors, Noël, une fête aux origines païennes. On ne revête plus la toge, mais la tunique, vêtement des pauvres et des esclaves, et on peut même coiffer le bonnet. On peut même se coiffer avec le bonnet de la liberté. Coiffure des esclaves affranchis. Lorsque Jules César réforme le calendrier lunaire alors en vigueur pour adopter le calendrier solaire, dit calendrier julien, et servant de base à notre calendrier actuel. Ouais. Le solstice est improprement fixé, donc au 25 décembre. Mais en réalité, il a lieu le 21.
Ah, d'accord.
Bon, c'est petit Jésus, il n'est toujours pas né le 21 non plus, hein. On ne sait pas quand, mais une erreur qui va perdurer et donner sa date à la fête de la nativité. Il n'y a aucune certitude quant au jour exact de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354 par le pape Libère. À cette époque, l'Église chrétienne instaure un calendrier des fêtes afin de supplanter les rites romains.
D'accord.
Et donc des Saturnales. C'est toujours une guéguerre, je te jure. Donc voilà, en gros, c'est ça. Le christianisme voyant Jésus comme la lumière du monde, son association au solstice d'hiver, donc la résurrection du soleil, apparaît parfaitement naturelle.
Voilà
pourquoi, voilà pourquoi le 25 décembre. Mais à la base, c'est une erreur. Ça aurait dû être le 21.
Ok.
Oh, on est tous d'accord avec le 25. On va pas le changer.
Oui, bah, de toute façon, on est tellement habitués maintenant. Non, que, bah, de toute façon. Donc, la lumière et naissance du Christ. Bon, on passe un petit peu aux choses sérieuses. Noël est donc à la fois synonyme de lumière et de naissance du Christ. Il subsiste d'ailleurs un débat sur l'étymologie même de ce mot. Provient-il du celte, par a contrario, naio, nouveau, ou el, soleil, ou du latin natilis, donc la natalité. La naissance miraculeuse d'un héros correspond à une thématique bien répandue dans l'Antiquité, façon héros de la Bible, né miraculeusement de femme âgée jusqu'à là stérile. Comme on l'écrit souvent sur le code Isaac, Jacob, Joseph, Samuel, mais aussi Jean-Baptiste. Saint patron et protecteur des petits-enfants et de la Lorraine, Saint Nicolas est fêté tous les 6 décembre, date de sa mort dans l'Est et le Nord de la France, ainsi que de nombreux pays d'Europe, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche. Il fait le tour des villes pour récompenser les enfants sages, ancêtres du Père Noël. Il parcourt le monde pour distribuer des cadeaux aux enfants méritants. Ainsi, il visite les écoles maternelles, distribue du pain d'épices et des oranges et se voit remettre les clés de la ville par le maire. Ce personnage sera inspiré d'une personnalité réelle, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Nicolas de Myre, évêque d'Asie mineure du 4e siècle, victime de persécutions sous le règne du Dioclétien. Appartenant aux saints les plus populaires, Saint Nicolas alimenté d'une multitude de légendes, mettant en avant sa personnalité généreuse. Il aura donné de l'argent à 3 jeunes filles pauvres pour qu'elles puissent avoir une dot et se marier. De plus, il aurait sauvé de la tempête un bateau pendant une cargaison de blé pour la ville de Myre.
Pas mal.
Voilà. Hein, il est bien sympathique.
Oui, alors à savoir si tout est vrai, je ne sais pas, parce que ça date quand même de machin. Mais en tout cas, le Père Noël part... apparemment, de cet homme-là.
Ouais.
Oui. Ça a inspiré.
Oui.
Comme quoi, tout est cause à effet. Ouais. Eh oui, on ne sait pas tout.
Et maintenant, on parle plus du Père Noël que de
Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui, c'est vrai.
Oui, mais
on
parce
pourrait
que...
parler des deux aussi.
Oui, mais parce que Noël, enfin, le Père Noël, c'est plus, on va dire, Coca-Cola, publicité, machin. Saint-Nicolas, c'est plus chrétienté, c'est plus...
C'est un symbole.
C'est un symbole plus religieux que le Père Noël, on va dire.
Saint-Nicolas, ça me faisait penser au Père Fouettard, mais je crois que tu vas en parler aussi.
Eh ben, exactement. Oui. Parce qu'elle a lu mon petit machin.
J'ai bien
donc,
fait mes devoirs.
Ouais, voilà. Donc, le Père Fouettard, bah oui, parce qu'après, on pouvait pas faire sans Saint-Nicolas. Oui. Alors, compagnon de Saint-Nicolas, le père fêteur, punit les enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année. On dit souvent que cette légende est une invention des percepteurs qui, au XVIIIe siècle, effrayaient ainsi les garnements et les fainéants. En réalité, le personnage a une origine historique précise. Lors du siège de Metz, par la troupe de Charles Quint, donc au XVIe siècle, les habitants de la ville assiégée tournaient en dérision l'image de l'empereur en brûlant un mannequin, son effigie. Ce dernier est surnommé le Père Fouettard. Dès le début du culte de Saint-Nicolas, un personnage ressemblant au Père Noël, est présenté comme son valet dans les pays de tradition germanique. Il porte différents noms, alors me demandez pas les noms en allemand, parce que alors là, je vais pas savoir. Donc en Allemagne, en Bavière orientale et en Autriche, donc on l'appelle Krampus. Et en Alsace, on l'appelle Hans Trapp. Donc aux États-Unis, la première évocation du personnage rappellera le Père Noël, date du début du 19e siècle. En 1822, il ne porte pas encore son nom actuel, mais est déjà décrit par le pasteur américain Clemence Clark Moore. Ce dernier, dans un poème intitulé « A Visit from Saint-Nicolas », présente Saint-Nicolas comme un lutin sympathique, fumant la pipe, dodu et souriant, qui distribue les cadeaux en se déplaçant sur un traîneau tiré par 8 rennes. Un texte qui a joué un rôle important dans l'élaboration du mythe que nous connaissons. À partir de 1850, les Anglais commencent à abandonner la célébration de Saint-Nicolas et à lui préférer la fête de Noël.
Ah, donc voilà. Tout vient de là.
Mmh. Et ben, en fait, ils ont préféré avoir les cadeaux.
Sacré poème.
Ils se sont dit l'orange et le pain d'épices, non, 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 non. Il y a des choses qui changent.
Il y avait les clés de la ville aussi, t'as dit.
Oui, donc en fait, on pouvait pas faire... Oui, en fait, ils pouvaient débarquer n'importe quand.
Tandis que le Père Noël n'a pas les clés de la ville.
Et non. Du coup, on en vient au Père Noël Coca-Cola. Donc l'image d'un personnage rond vêtu d'un costume rouge garni de fourrure n'est devenue populaire qu'à partir des années 1930.
Oui.
Donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est exactement donc en 1931 que le dessinateur Anton Sundball, décide d'utiliser cette image pour une campagne publicitaire de Coca-Cola, afin d'inciter les consommateurs à acheter la boisson gazeuse en plein hiver. Cette image largement transmise par tous les médias a réussi et a gagné donc le monde entier. La France, pays catholique où Noël a longtemps été associé à la seule naissance du Christ, le personnage a été popularisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mot crèche désigne à l'origine une mangeoire pour des animaux. Pardon. Selon l'église de Luc, Marie aurait déposé l'enfant Jésus dans la crèche de la grotte aménagée en étable, comme il en existait beaucoup en Palestine, où Joseph et elle ont trouvé refuge à Bethléem. Par extension, le mot crèche désigne le site tout entier. Donc l'étable, les vaches, enfin voilà. Ouais.
Tout est crèche.
Ouais. Donc de la crèche vivante à la crèche miniature. L'invention de la crèche de Noël est traditionnellement attribuée à... À qui ? Ah, vous savez pas. Hein. Saint François d'Assise.
D'accord.
1181-1226. Ouais, j'ai vécu longtemps, mais tu le savais. Mais t'avais un doute.
Je le savais, voilà.
Ce dernier aurait créé la première crèche en 1223 dans son église et aurait fait tenir les rôles de personnages de la nativité, donc l'enfant Jésus, Joseph, la Vierge Marie, les trois rois mages, les bergers, les paysans, par des habitants du village.
Il n'a pas fait les animaux ?
Non. C'est les habitants de... non, il n'a pas fait les animaux. À cette époque, les animaux, ils étaient des animaux. Voilà.
C'est toujours la même chose.
Ouais, voilà. Petit à petit, la coutume se serait répandue et aurait progressivement remplacé les personnes vivantes par des figurines de cire ou de terre cuite en porcelaine ou encore en plâtre. Les premières crèches proches de celles que nous connaissons ne sont apparues qu'aux alentours du XVIe siècle dans les églises. Les jésuites seraient à l'origine des premières crèches en format réduit. Vous allez apprendre plein de trucs aujourd'hui.
C'est ça.
La crèche familiale. Ouais, parce qu'alors il y a la crèche, et puis maintenant il y a la crèche familiale. Alors au XVIIe siècle serait née la crèche familiale. Elle serait répandue au siècle suivant, notamment chez les aristocrates napolitains. En France, la Révolution interdit les crèches publiques, ce qui favorise le développement des crèches familiales dans les maisons. C'est alors que se développe la crèche provençale, plus rustique, moins raffinée que la napolitaine. Depuis, la tradition est restée, s'adaptant aux coutumes nationales et régionales. Ainsi, en Provence, sont rajoutés des santons, illustrant les métiers traditionnels de la région, tandis que les crèches polonaises comportent deux étages, permettant de représenter à la fois les personnages de la nativité et les héros nationaux. Considéré par les Celtes comme le jour de la renaissance du soleil, le 24 décembre était associé à l'épicéa, symbole de l'enfantement. Cette tradition païenne s'est rapidement reproduite dans le monde chrétien. Et au XIe siècle, les fidèles représentaient lors de leur mystère l'arbre du paradis par un sapin garni de pommes rouges.
On en revient à ce que tu te disais tout à l'heure.
Toujours.
Tout a du sens.
Tout a un lien. On sait pourquoi, de d'où ça vient. Une tradition alsacienne. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est en 1521 que l'arbre de Noël aurait fait sa première apparition en Alsace. Dans cette région, les habitants sont autorisés à couper les arbres encore verts lors de la Saint-Thomas, donc le 21 décembre. Ces derniers sont décorés, comme je disais tout à l'heure, de roses, de pommes, de confiseries, de petits gâteaux. Au XVIIIe siècle, la coutume du sapin décoré est bien implantée en Allemagne, en France et en Autriche. En 1841, le prince Albert, originaire d'Allemagne, et son épouse, la reine Victoria, introduisent cette tradition au Royaume-Uni en faisant dresser un arbre de Noël au château de Windsor. Dans la cour, la mode du sapin de Noël se répand rapidement dans la bourgeoisie et chez les gens du peuple.
Mais de toute façon, c'est très beau en plus, un sapin.
Ouais. Tout a été emporté. Et chou.
En quoi le décorer.
Ah ouais, mais on dit merci qui ? Merci les païens. En gros.
C'est ça.
Alors, les décorations.
Alors,
parce qu'on n'a pas toujours décoré de gâteaux, de roses, de pommes.
On ne peut pas parler de nourriture.
Ah, on ne peut plus. C'est gaspillage. Donc, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les sapins sont illuminés par des petites bougies. Qui ne sont plus autorisées maintenant parce que sinon ça crame. Mais à l'époque, c'était des petites bougies.
Chez moi, c'est sûr que ça foutrait le feu.
Voilà. Il faut attendre 1880 pour que les premières décorations électriques apparaissent aux États-Unis. 1880. Jusqu'en 1950, c'est en majorité en Allemagne et en Europe de l'Est que sont produites les décorations de Noël. Les personnages sont généralement fabriqués en coton, les cheveux d'ange en fibre métallique. Quant à la boule de Noël, il s'agit à l'origine d'une pomme. C'est en 1858 qu'un artisan verrier a eu l'idée de créer la boule de Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui, à la suite d'un hiver particulièrement rigoureux qui avait eu par conséquence d'affecter les récoltes.
Donc plus de pommes.
Plus de pommes. Mmh. Les quatre semaines précédentes, la veille de Noël correspondant à l'Avent, Avent vient du latin adventus, qui signifie venu, arrivé. Depuis le pape Grégoire Ier, l'Avent représente la période de la préparation à la venue du Christ. Elle commence avec le quatrième dimanche précédent Noël et marque le début de l'année ecclésiastique. On apprend des trucs. Hein. Enfin, maintenant, on remarque que la plupart du temps, on s'en fout. Mais
on va peut-être pas tout ressortir autour d'un dîner.
Ça fera un sujet de conversation lors des réveillons. La couronne de l'Avent. Qui commence à revenir.
Ouais, parce qu'on en parle un peu moins de ça, en général.
Mais les gens commencent. Les choses d'antan reviennent un petit peu.
C'est vrai.
Donc, la couronne de l'Avent, née au XVIe siècle en Allemagne. La couronne de l'Avent, en forme de cercle, devrait rappeler aux chrétiens le retour annuel, innumable, du Christ au mois de décembre. L'histoire raconte que la couronne de l'Avent aurait été inventée au milieu du XVIIIe siècle, dans un orphelinat de Hambourg, avec le pasteur Heinrich Wischerm, constitué par l'assemblage de plusieurs branches de sapins, de lauriers, de houx, de gui, de pommes de pin, de rubans de couleur. Elle comporte traditionnellement 4 bougies. Chacune d'entre elles doit être allumée chaque semaine pendant Noël. Précédant Noël, pardon. Traditionnellement, les bougies sont rouges, couleur de feu et de lumière. En Suède, elles sont blanches, évoquent la pureté, tandis qu'en Autriche, elles sont violettes et symbolisent la pénitence. Donc, si vous voulez faire des couronnes de l'Avent, c'est pas en allant à Action. Vous savez que vous devez mettre donc branches de sapin, du laurier, du houx, du gui, pommes de pin et du ruban de couleur.
Et on choisit la couleur de la bougie.
Ouais, maintenant on ne fait plus, parce que si c'est laisser la bougie s'allumer pendant... hein. Et donc on va passer à comment s'apprêter pour Noël.
Ah, à nous.
Ça va être à nous. Donc, Audrey.
Oui.
Tu es qui?
Alors, je suis Audrey.
Voilà.
Je suis esthéticienne. Je suis esthéticienne depuis 3 ans. Esthéticienne depuis 10 ans, et j'ai créé il y a 3 ans Beauté Pétillante. Donc, je suis la seule à travailler, parce qu'on me le demande régulièrement. Donc, je suis la seule à travailler pour l'instant. Mm-hmm. J'espère un jour, du coup, me développer et pouvoir embaucher. Et je suis esthéticienne traditionnelle. Donc, c'est-à-dire que, du coup, on va pouvoir retrouver chez Beauté Pétillante des prestations telles que les soins visage, les massages, les épilations du corps. Et je me suis spécifiée en épilation homme. Donc, mes soins sont mixtes. Autant les soins visage que les massages, les produits sont mixtes. Mm-hmm. Et j'ai une cire spéciale homme.
C'est un peu du coup ce qui peut me permettre de... Elle leur fait moins mal, en fait.
Bah, elle leur fait moins mal.
Ouais.
Ils ont un poil plus épais. Et donc, du coup, c'est plus adapté.
Non, mais c'est bien quand ils peuvent s'ouvrir un petit peu.
Oh, mais ils le montrent pas.
En c'est général, comme quand ils ont une grippe.
En silence.
En silence.
Ouais, c'est
et
ça.
Du coup, donc là, les tendances maquillage pour Noël.
Toujours le doré. Enfin, très régulièrement, chaque année,
c'est
le doré
pareil, qui revient. Aussi, de toute façon.
C'est ça, les paillettes.
Ouais.
Ça, du tout. Ça, du coup, pardon, on reste tout le temps sur le thème. Les paillettes, tous les ans. Et là, le doré, principalement le doré. On fait toujours très attention, du coup, de ne pas charger les yeux et la bouche.
Mm-hmm.
Sauf si on va en boîte. Là, dans ce cas-là, avec les lumières, les jeux de lumière, on peut se le permettre. Ou si, éventuellement, on vient à fêter Noël ou Nouvel An sur un podium.
Oui.
C'est pas de donner à tout le monde.
Peut-être avant ou après.
Hein? C'est ça. Mais en général, on évite de charger les yeux et la bouche.
Donc, en fait, le smoky.
Le smoky, on peut. Mais on dans peut. Ce cas-là, on part sur quelque chose de plus léger au niveau de la bouche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, on a aussi la coiffure. On peut oui. avoir des attaches, des paillettes, des choses comme ça. La tenue, les bijoux, nous on est des femmes. Les ongles.
Oui, il ne faut pas surcharger.
Et donc du coup, si on pense aussi à la tenue avec un rouge criard par exemple, et qu'on a chargé les yeux avec un smoky plus la bouche avec un rouge, ça peut être sympa, mais autour d'un dîner de famille, ça peut être chargé.
Ouais. Plus pour
c'est nous
le
sapin quoi.
Ou sinon voilà, on rivalise avec le sapin sinon.
Ouais, on rivalise avec le sapin.
Pour Nouvel An, c'est vrai que du coup, on peut partir sur des
on
choses
peut
un, peu
un petit peu plus quand
en
soirée et que parce que du coup, c'est maintenant c'est de moins en moins que tu vas en famille.
C'est ça. Pour Noël, principalement.
Pour Noël, c'est
pour Nouvel An,
mais pour Nouvel An, t'es plus, tu vas plus en boîte.
Et du coup, c'est pour ça, il y a plus de jeux de lumière pour Nouvel An, en général.
Donc là, tu peux intensifier.
Et donc là, on peut intensifier. C'est ça, on peut charger.
Mais il faut quand même penser quand tu vas sortir aux gens en face de toi.
Bon, ça dépend après, du coup,
s'ils
sont
à jeun
ou...
Il faut penser aux flics ou aux pompiers. Elle est morte ou pas ? Ben alors ?
Non, il faut faire attention.
Donc il faut quelque chose de léger, on va dire.
Pour Nouvel An.
Pétillant, mais pas trop, quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Beauté pétillante.
Voilà.
Faut venir se maquiller avec moi le 24.
On a retenu le nom. Coco a retenu le nom. C'est bon.
C'est ça. Non, si pour Noël, du coup, comme on va privilégier les repas de famille en général, on peut choisir des paillettes, par exemple, sur les yeux. Mettre des paillettes, c'est ce que je vais montrer aussi sur une des deux modèles tout à l'heure.
Mm-hmm.
Un peu comme toi, aujourd'hui.
Oui, moi
mettre
j'ai
des
mis
paillettes,
des paillettes
légèrement sur les yeux. Et donc, dans ce cas-là, on peut partir sur un rouge sur les lèvres.
C'est, ça me fait penser au truc, c'est Kevin, mets-moi des paillettes dans ma vie.
C'est
donc,
ça.
Du coup,
ça
profitez-en.
Souvent,
mettez-vous des paillettes. Voilà. Votre chérie, vous le regardez, vous lui faites un gros bisou, comme ça, il en aura aussi.
C'est ça. Tandis que sur l'autre modèle, du coup, j'essayerai de faire un smoky coloré, justement.
Ouais.
Et dans ce cas-là, on part sur une bouche un peu plus nude.
Donc, smoky coloré, c'est pas du noir, c'est vraiment de la
ça
couleur.
Ça peut être du noir,
ça
avec
peut être
des
du
touches
noir,
de couleur. C'est ça.
Ok. On va prendre plein de trucs.
Le tout, c'est de bien fixer le teint. Si on veut que ça dure.
Mais il faut bien. Alors moi, je vais redire
bien
après mon petit
sa
truc.
C'est
voilà,
ça,
c'est ce que je vais dire.
Mais on en reparlera
ce
après.
C'est ce que je vais dire dans mon petit truc là. Et donc, du coup, nous passons à Madame Adeline.
Oui.
Alors, voilà. Donc, Adeline, parle-nous de toi, donc de ta petite société, on va dire.
Oui. Donc, moi, j'ai créé ma société, qui est les Ciseaux d'Adèle. Ma spécialité, c'est donc la coloration végétale que j'ai mise en place il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour vraiment être vraiment dans le naturel.
Ouais. Et en restant éco-responsable, s'il vous plaît.
C'est ça.
Hein, voilà.
Pour la santé, pour ma santé, et
oui,
pour
aussi,
celle des autres.
C'est
aussi,
important aussi.
Voilà. Et avec le végétal, on peut faire plein de choses.
Et tu peux réaliser pas... toute couleur.
Toute couleur dans
peut-être
naturel.
Pas le rouge, peut-être pas le parce que comme coco rouge, c'est pas possible.
Non, en végétal non, c'est vraiment rester dans le naturel, mais on peut faire déjà beaucoup de choses. On peut aller du noir jusqu'au blond en fait.
D'accord, c'est déjà pas mal.
Et le cuivré comme toi,
hein bon,
c'est possible.
Comme Juliette,
oui.
Hein, tourne la caméra, il y a Juliette là, va faire coucou. Donc du coup, les tendances pour le réveillon, pour les coiffures, ça serait quoi?
Bon, en coiffure, c'est tout dans le naturel également, en fait. Hein. C'est plus des tresses, mais vraiment étirées. On est dans les coiffages décoiffés, en fait.
D'accord.
Le bohème.
Fait coiffer, décoiffer. Ouais. Voilà, le bohème.
Le truc bien, quoi.
En
on
général,
est tranquille
on
à la maison.
Plus trop sur les coiffures très sophistiquées.
Le chignon et tout ça, ça
voilà.
se...
Ça se perd.
Ça se perd un peu, même pour les mariages, tout ça.
Ouais, les gens veulent plus des trucs trop classiques. Et
Même si ça demande du travail quand même.
Oui, oui, ça je me dis.
Justement.
Voilà, ça demande beaucoup de travail, mais ouais. C'est moins étiré. C'est plus dans vraiment dans le naturel, dans la délicatesse, en fait.
D'accord, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bah, Angel, tu veux nous poser une petite musique? Parce qu'on parle, le temps il passe.
Oui. Donc cette fois, je vais vous passer...
Et puis on va se préparer.
I Saw Mommy Kissing Santa Claus des Jackson 5, sorti en 1970.
Ouais.
On va écouter ça.
Hey. Merry Christmas and a Happy New Year. This is Michael Jackson of the Jackson 5 wishing a happy holiday to all Motown fans. Kissing Santa Claus. I saw mommy kissing Santa Claus, underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. Santa Claus, and I'm gonna tell my dad.
Il y a un sacré foutoir dans le studio, hein, d'accord? Parce qu'elle commence à se faire maquiller, Elisa et Juliette. Donc, ça sort sa palette. Il y a combien de choix de couleurs là-dessus?
Un milliard.
Un milliard? Bon, ça. Ouais. Bon, bah, Elisa va ressembler à un sapin de Noël.
Surtout, on va faire les paillettes en plus sur Elisa.
C'est, en plus, bah alors. Donc, cette petite séquence sera filmée par Coco. n'est-ce pas Coco? Filme bien. Hein. Et du coup, ça sera retransmis sur le site de Facebook de Radio Plus pour vous montrer un petit peu les choses. Donc du coup, moi, je vais parler un petit peu pour les fêtes donc de fin d'année, de Noël, donc les jolies robes de soirée, le maquillage pailleté, comment être certaine de réussir son make-up pour une fête sans trop en faire ni pas assez, sans ressembler à un sapin de Noël trop décoré. Coco, elle a mangé mes mots tout à l'heure. Donc, en un, on prépare bien sa peau, donc la nettoyer correctement. On en profite pour faire tout, la totale, le corps, le machin, badigeonnez-vous, mettrez de... Alors, l'huile de noix de coco est très bien pour hydrater sa peau. Vous prenez le temps de vous occuper de vous avant les fêtes, ça c'est bien. On opte pour un teint donc parfait pour le maquillage. On maquille donc ses yeux et la bouche. On ose les smoky eyes colorés. Comme disait tout à l'heure Audrey, on s'autorise les paillettes. On n'oublie pas les cils, voire les extensions. Ça peut être bien ça, les extensions, Audrey.
Alors, ce qu'on peut faire quand on ne sait pas mettre les franges.
Oui, vas-y.
Ce qu'on peut faire quand on ne sait pas mettre les franges de faux cils pour le maquillage,
ouais.
C'est qu'on peut, c'est ce que je vais faire justement sur Elisa, opter pour des petites touffes qu'on va venir coller et déposer sur le coin externe des yeux.
Des petites touffes ça peut...
de cils. On peut trouver partout. Alors là, j'en ai des Make Up Forever, j'en ai des Kiko. Je montrerai après comment les poser. C'est relativement simple.
Okay.
Et ça nous permet du coup de ne pas avoir besoin de se batailler avec une frange de faux cils.
Ça, c'est
ce
bien.
Qui peut être compliqué à mettre. Ou alors, il faut s'entraîner une semaine à l'avance.
Et encore, il faut être surtout très patient.
C'est ça.
Chose que je ne le suis pas du tout. Donc, on dessine une jolie bouche, on pense à sa manucure, parce qu'on n'y pense pas toujours. Manucure des mains et des pieds, c'est bien. Tant qu'à faire, autant dire à son chéri, bah tiens, c'est mon Saint-Nicolas.
On peut penser au semi-permanent aussi, qui nous permet du coup d'avoir les ongles manucurés de Noël à Nouvel An.
Voilà, eh ben voilà, vous avez encore une idée. Voilà, dites à vos petits chéris. Moi, j'aime bien dire, c'est la période officiellement ouverte du chantage au Père Noël. D'accord ? Donc, vous faites du chantage à votre chérie ou votre maman ou je sais pas qui. Voilà. Saint-Nicolas. Il est déjà passé, mais ça dure. Ou les Saturnales. Tiens, ça dure pendant 7 jours. Voilà. Donc, on soigne sa coiffure, du coup. On essaye de se coiffer joliment, de passer même chez la coiffeuse, c'est même carrément mieux.
Hein.
C'est carrément mieux. Et donc, surtout, on pense à se démaquiller. Hein, parce qu'entre Noël et le Nouvel An, il faut quand même penser à se démaquiller, à prendre soin de sa peau.
Un petit truc à rajouter.
Attends, parce que...
Je fais des bêtises.
Oui, tu fais des bêtises.
J'ai un petit truc à rajouter. C'est que, on se démaquille entre les fêtes. On n'essaye pas de le garder
jusqu'à
Nouvel An, par exemple.
Ouais, parce que...
Non, c'est très, très important. Il y en a qui vont faire ça parfois. C'est déjà arrivé. Non, c'est super important de laisser respirer sa peau.
Oui, sinon plein de boutons. Puis alors là, pour le Nouvel An, je vous dis pas. Il manque plus que les trucs pour clignoter sur sa peau.
Voilà.
Ouais. Donc, faites attention à votre peau. Prenez le temps de prendre soin de vous. Argumentez que c'est les Saturnales et dites que tous les jours vous avez besoin d'aller chez l'esthéticienne, la coiffeuse, la maquilleuse, d'aller vous chercher une robe, voire deux, parce que Noël et Nouvel An, voilà. Des paires de chaussures pareilles, tout, on en profite. Hein. C'est Noël.
Ah bah oui.
Donc, j'ai raison. Hein,
Oui, tu as tout à fait raison.
C'est Juliette qui parle. Juliette est en train de se faire coiffer. On lui fait des petites anglaises, Adeline ?
Je fais des boucles et après je vais tout bien...
Donc elle fait des boucles et après tu vas tout recoiffer par derrière. Juliette,
on
ne garde pas ça jusqu'à Noël. Hein.
Non, je reviendrai.
Attends, oui, voilà.
Les cheveux entre-temps. Hein.
Voilà. Quand même, ouais. Parce que sinon, c'est là, tu pourras faire la crèche de Noël.
Oui, oui c'est vrai. Oui.
Donc du coup, pensez justement à... aller voir des professionnels pour avoir de bons conseils parce que du coup, Internet, c'est bien, mais parfois pas.
Ouais.
Parce que Internet ne connaît pas notre peau ni notre cheveu. Mm-hmm. Donc, et pareil, la coloration, pour être sûr de ne pas être ratée, il vaut mieux aller chez la coiffeuse et faire ça de façon naturelle que de faire ça soi-même et quitte à ressembler à je sais pas quoi à la fin, en se disant, surtout si on s'y fait seul 24 avant de machin, c'est pas la peine. Donc, nous avons Audrey qui tient beauté pétillante.
Oui.
À la bassée. Nous avons Adeline, donc c'est les ciseaux
d'Adèle.
Et c'est où ça?
À Montignan-Gouëlle.
Ah non, moi, je suis sur Rochelle-les-Mines.
Ah, Rochelle-les-Mines.
J'ai dit là-bas, c'est bon. Oui, oui, oui.
Bah, on va passer les petites pubs. En attendant, on revient.